Amen, amen. Alors ce matin, vous savez que c'est une habitude que j'ai prise depuis un petit temps, depuis que je suis dans cette église. Vous savez que j'ai l'habitude, pendant la période des vacances, de vous permettre d'ouvrir un livre de la Bible et comme ça de la visiter un peu, de le visiter un peu, de l'explorer, de faire un peu sa connaissance. Afin que, bien sûr, ça vous incite, vous aussi, à lire, évidemment, des livres de la Bible. Vous savez aussi que c'est mon souhait, en tout cas, pour vous, pendant la période des vacances, je parle surtout à ceux qui ont les vacances, parce qu'il y en a qui sont tout le temps en vacances. Et je parle de ceux qui sont en vacances. Eh bien, ceux qui sont en vacances, je les encourage à prendre non pas des petites portions de la Bible, mais de se donner un temps, une semaine, deux semaines, pourquoi pas, mais de lire tout un livre entier de la Bible. Évidemment, tu as des livres comme Genèse qui ont 50 chapitres, 49 ou 50, je ne sais plus. Mais vous avez aussi des petits livres qui n'ont que une ou deux pages. Si vous voulez lire l'Épître au Philémon, vous faites comme ça, chum, quand vous tournez la page, chum, terminé, il n'y a plus rien. Si vous voulez lire d'autres livres plus difficiles, mais quand même, qui sont à lire, vous prenez Lamentation de Jérémie, bon, ça ne fait que 3-4 chapitres ou 5, je ne sais plus, mais ça s'arrête là. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, voilà. Mais donnons-nous un défi, toutes les vacances, de lire entièrement un livre. Et si vous êtes en couple, c'est encore bien. Monsieur et madame, prenez un livre, vous lisez tous les deux, vous la méditez, vous réfléchissez, quelle est sa structure, quel est son plan, comment ça fonctionne, comment ça se goupille, quel est le message central du livre. Vous verrez que vous serez étonné des pas de géant que vous allez faire dans l'habitude de comprendre le contexte biblique. La Bible est un livre vivant qui se renvoient l'un à l'autre. Et c'est le miracle de Dieu, parce qu'entre certains auteurs et d'autres, il y a parfois 1500 ans de différence. Donc ça sous-entend une civilisation différente, une mentalité différente, une façon d'aborder les choses différemment, et pourtant, vous verrez que les paroles se rejoignent, la pensée se rejoint. Donc, je vous encourage. Nous sommes fin juillet, vous avez encore un mois de vacances, prenez un livre, donnez-vous un défi et racontez-moi tout à la fin des vacances. Racontez-moi comment vous avez pu lire tout votre livre et le terminer et ce que vous avez appris dans le livre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est faisable ce défi-là? Là, tout d'un coup, il y a des absents ici. Il n'y a plus de présents là. Est-ce que c'est faisable? Bien. Je n'ai pas regardé qui a dit oui. Hein. J'ai juste entendu des voix. Je m'efforce de ne pas savoir qui a dit oui, qui a dit qui s'est tu, parce que sinon je vais venir après dire, toi tu avais dit oui. Hein. Non, je ne vais pas faire ça. En tout cas, soyons nombreux à la fin de nos vacances à pouvoir dire, j'ai lu un livre, j'ai lu tel livre, ou j'ai lu tel livre, c'est aussi faisable. Ce matin, je vous propose la lecture... L'étude du livre des juges. Oh, vous devez faire normalement. Oh, horreur. Le livre de juges est un des livres le plus intéressant. Nous avons déjà étudié ensemble ici, on a déjà fait Abdias, le prophète Abdias. On a fait que des prophètes. Hein. Prophète Abdias, Nahum, Sophonie, je pense Habacuc aussi. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on tourne vers un autre livre qui fait partie de notre catégorie. Alors, il y a 21 chapitres dans le livre des juges. Et j'aurai 4 prédications qui se suivent ici dans les dimanches qui suivent. Et je vais diviser mes 3 prochains dimanches à chaque fois à prendre une portion de cette histoire des juges. j'essaierai de faire en sorte que je respecte le contexte de la parole, du texte. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire avec un livre biblique. J'espère que non seulement cela nous permette de nous familiariser un peu plus avec le livre de Juges, mais aussi peut-être de tirer des leçons de vie sur notre propre marche spirituelle. Parce que le livre de Juges est un livre très, très intéressant. Mais ce matin, je vais juste vous mettre de l'eau à la bouche. On ne va pas vraiment entrer dans le texte, on va juste l'introduire et peut-être voir un peu le contexte général. Et peut-être, j'espère, que ça vous donnera envie de le lire. En tout cas, en ce qui concerne le livre de Juges, j'aimerais bien que vous le lisiez quand même. Enfin, si vous avez envie que vous vérifiez au moins ce que je raconte. Hein. Parce que si vous ne le lisez pas, je vais pouvoir dire qu'il y a des poules qui ont des dents là-dedans et que vous allez me dire oui, oui, oui. Si vous le lisez, vous allez pouvoir aussi dire « Gaston, stop !» Non, je ne ferai pas ça, je vous rassure. Hein. Je ne ferai pas ça. Mais lisez avec moi le livre de Juges tout le temps que nous avons la prédication de ce livre. Alors, je vais vous faire participer un peu avant d'aller plus loin. Et, première question, très très simple. Qui est-ce qui a déjà lu le livre de Juges? Levez la main. Ah, il y en a quand même, chouette! Je pensais que c'était un parfait inconnu pour vous. Qui l'a déjà lu en totalité? Ouais, Quentin, ouais, merci Christy. Oh, Ida, ça ne m'étonne pas de toi. Alors, deuxième question, à deux balles. Où se situe le livre des Juges? Comment? Excellent, très bien. Mais encore, dans quelle partie de la Bible? Dans l'Ancien Testament, merci. Bien, alors on va aller plus loin encore. Vous savez que l'Ancien et le Nouveau Testament sont repartis. La Bible, c'est comme une bibliothèque, vous savez ça? Et une bibliothèque, vous avez donc l'Ancien et le Nouveau Testament, mais vous avez des rangements. Vous savez, ça est rangé. Il y en a combien de chaque côté? Georges. Alors, vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament, vous avez des rangées. Il y a quatre rangées de deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a dans la première rangée? Je fais ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Le Pentateuque. Excellent. Donc, il y a le Pentateuque, les livres de la loi. OK. Deuxième rangée. Voilà, on fait comme ça, et puis on fait comme ça. Bien. Oh. Elle va me piquer toute ma leçon. Hein. Très, très bien. Les livres historiques, il y en a 12 au total. Alors, après, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, amusons-nous un peu. La troisième rangée, il y a quoi? Il y en a 5. C'est les livres poétiques. Pas encore prophétique, hein, poétique. Donc, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique de Cantique. Et puis, il y en a 17 maintenant, les derniers, le plus gros, c'est quoi? Les livres prophétiques. Bien, vous avez donc 4 rangées avec les différents livres qui sont dedans. Bien. Le livre de Juges fait partie de quelle rangée? Vas-y, Jaco, je ne t'ai pas entendu. Les livres? Oui, oui, ben oui, la deuxième, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Les livres? Historiques. Bien. Mais ça fait partie de votre culture biblique, hein? Connaître toutes ces choses-là, il ne faut pas seulement faire l'IBB, hein? Il faut, vous, dans votre culture personnelle, vous devez vous habituer à ces choses-là. Pourquoi? Parce que si quelqu'un sait que la catégorie du Pentateuque, vous êtes habitué à ça, vous savez donner un contexte général à ça. Le Pentateuque entièrement, vous savez que les 5 livres de Moïse, ce sont des livres qui peuvent se lire tous les 5 dans l'entièreté. C'est un continu. Hein. Et dans ce livre, il y a des clés. qui se rejoignent d'un bout à l'autre. Regardez les généalogies, un exemple simple. Voici la descendance de. Ça va depuis la Genèse jusqu'à Deutéronome. Hein? Ouais, on les appelle, enfin bref, c'est pas grave ça. Bon, donc, les livres historiques aussi, c'est important de pouvoir savoir ce que c'est. Pourquoi on les appelle des livres historiques ? Question à deux balles, je vous embête aujourd'hui. Allez, pourquoi on les appelle des livres historiques ? Je ne vous embêterai pas pour le reste, hein, mais pour les livres historiques. Ah, parce qu'elle raconte des histoires. Oui, mais encore, quelles histoires ? Pardon ? Du peuple juif, mais encore, l'enjeu essentiel des livres historiques, c'est l'histoire du peuple à travers les rois, les royautés. C'est comme ça que vous avez 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques. Ils ne parlent que des rois, que des histoires des rois, en quelque sorte. Donc, l'enjeu essentiel, c'est la royauté. Ah ah ah. Mais, c'est pas tout. Il y a des personnages hein, dans le livre historique. Hein. Vous connaissez certains personnages du livre historique ? Oui ? Allez, citez-moi un. Salomon. Ah oui, non, pardon. Je précise ce que je veux dire. Je veux dire, il y a des personnages qui font l'objet d'un livre, dans les livres historiques. Oui, je me suis mal exprimé. Allez, dites-moi. Samuel, qui d'autre ? Esther, très bien. Josué, j'ai entendu Josué, bien. Qui d'autre ? Des livres, hein, livres, pensez livres, pas personnage, livres. Ruth, merci. Ruth, allez, on peut compléter, Esdras, Néhémie. Voyez, il y a aussi des personnages. Donc, les livres historiques racontent des faits qui ont eu lieu dans les temps des rois ou dans les temps en dehors des rois, mais aussi parlent, fait une opposition entre les gens bien et les gens vraiment, vraiment pas bien. Voyez. Alors, on revient dans le livre de Juges. Quels sont les personnages que vous connaissez dans le livre de Juges ? Comment ? Samson et Dalila, quelle belle histoire, enfin, quelle histoire dramatique. Quoi d'autre ? Gédéon. Oh oui ! Évidemment, on va sortir tous les juges. Hein. Vous en connaissez des juges ? Samson, Gédéon, quelqu'un connaît d'autres, une autre star parmi les juges ? Il y a même une dame là-dedans. Déborah. Bien. C'est bien, hein. Je vois que votre connaissance biblique n'est pas aussi, aussi mauvaise que ça. Hein. C'est bien. Juste une dernière chose, avant peut-être de rentrer dans une petite introduction. Vous savez que notre façon de nommer, de ranger nos Bibles dans les catégories, ce n'est pas la même chose que les Hébreux. Et pour les Hébreux, les livres historiques font partie de ce qu'on appelle les prophètes antérieurs. Et les prophètes postérieurs, c'est tous les livres prophétiques. Pourquoi on les appelle ainsi ? Parce que les Juifs voient à travers le livre historique, ils voient aussi l'histoire des prophètes. Il y en avait notamment deux, très très grands prophètes. Vous les connaissez, n'est-ce pas ? Mon Dieu, j'ai l'air d'être tout seul ici. Élie, très bien. Et puis, ta voisine là a le nom presque proche. Élisée. Ouais, ta voisine, c'est toi, hein? Voisine de Jaco. Hein? Bien. Allez, merci pour votre participation. Je vous donnerai chacun une augmentation des points, 2 points supérieurs, 2 points en plus pour votre travail. Mes élèves, vous serez bien cotés cette année, cette période, c'est bien. Alors, le livre de Juges est un livre difficile à cerner. C'est pas facile à lire parce que c'est un livre qui est qui dit une chose et son contraire. qui fonctionne avec une espèce de clé. Il faut pouvoir le lire avec beaucoup de choses que vous connaissez à côté. C'est un peu comme si quelqu'un faisait un discours, il parle de quelque chose, mais si vous n'avez jamais connu le contexte derrière, vous ne comprendrez pas le discours. Vous ne saurez pas de quoi il parle. C'est un peu ça. C'est un livre qui est un peu comme opaque. Et s'il y a une raison pour laquelle c'est un livre qui est difficile à cerner, à comprendre, c'est peut-être parce qu'une des réponses à cette question est peut-être à situer dans le but pour lequel son auteur l'a écrit. Ah, qui est l'auteur du livre des Juges? Alors, on ne connaît pas l'auteur, mais la tradition retient que c'est Samuel. Samuel que vous connaissez, l'auteur de ces deux livres de Samuel, qui était donc à la fois prophète, sacrificateur et juge. On dit que c'est lui qui a écrit cela. Mais nulle part dans le livre de Juges, vous verrez le nom de Samuel. Nulle part Samuel dit que c'est moi qui ai écrit ce livre. Mais d'où vient que Samuel n'exprime pas alors clairement que c'est lui qui a écrit ce livre? Alors, pour répondre à cette question, pour comprendre, donner des réponses à cette question, et rassurez-vous, hein, je ne suis pas en train de spéculer sur un truc, je suis en train de parler du livre, proprement dit. Pour répondre à cette question, il faut d'abord pouvoir partir d'un mot-clé. Et je vous invite à le lire. Donc, Juges chapitre 17, verset 6 d'abord. Regardez. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ça, c'est le mot-clé du livre des Juges. Il est répété à la fin, au tout dernier verset du dernier chapitre, donc chapitre 21, verset 25, tu peux le remettre. « En ce temps-là, répète-t-il encore, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ça, c'est le mot-clé du livre des Juges. « En ce temps-là ». Le temps des Juges est donc une période où il n'y a pas des rois, mais il y a des petits chefs qui ont le rôle ponctuel de libérer le peuple d'une oppression. Ce que ce texte veut sous-entendre, c'est que l'absence d'un roi dans un pays entraîne le fait que chacun fait ce qu'il veut. Okay? Donc, l'absence d'un roi entraîne l'absence des règles et des lois et l'absence de quelqu'un qui peut faire respecter l'ordre. Et là où il n'y a pas de loi, le peuple n'a pas de direction. Donc chacun fait ce qu'il veut, en bien comme en mal. Chacun se permet de faire comme il veut. Et voyez, cela entraîne une autre idée qui est derrière. C'est l'idée du désordre dans la façon dont les gens agissent. Ils n'agissent pas en ordre. Ils ne sont pas unis dans la façon de faire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le désordre. Mais derrière le mot, derrière la réalité du désordre, il y a la réalité de la rébellion. Il y a la réalité de l'opposition à l'autorité et particulièrement à l'autorité de Dieu. Le livre de Juges traite du sujet du rejet de Dieu par son peuple. Le rejet de Dieu en tant que roi. Parce que c'est Dieu qui est le roi par excellence. Et sa royauté, la royauté de Dieu, est la seule véritable. C'est la seule véritable qui peut permettre au peuple de vivre en paix et de vivre heureux. Et donc, le livre de Juges raconte comment vit le peuple rebelle à l'autorité de Dieu. Ce livre raconte comment des juges, tout aussi imparfaits, vont œuvrer pour pouvoir sortir le peuple des oppressions. Et vous remarquerez que ce texte, ce livre s'amuse à présenter tous les juges comme étant des êtres imparfaits, avec beaucoup de choses surprenantes, excessives parfois. Et vous remarquerez que donc le livre de Juges est un livre qui fait l'engrenage, le cycle entre le péché et sa punition, puis le pardon, la restauration et un temps de paix, puis encore le péché et sa sanction, etc. Parce que le livre de Juges poursuit le projet de Dieu. Nous le verrons prochainement. Dieu avait promis à son peuple quoi ? En Deutéronome. Il a dit, je vous donne la terre de Canaan à conquérir et à gagner. Si vous faites ma volonté, je serai toujours avec vous. Mais si vous me désobéissez, j'enverrai un autre peuple, plus fort que vous, qui va vous oppresser, qui va vous maltraiter, qui va vous prendre en esclavage, qui va même parfois prendre des champs de chez vous et les emmener en captivité. Dieu avait promis cela. Mais que fait le peuple quand il arrive en terre promise? On le verra aussi. Le peuple commence à faire des alliances. Et d'alliance en alliance avec les autres peuples, le peuple commence à tomber dans l'idolâtrie. Il commence à adorer les divinités de ce pays-là, commence à faire les mélanges entre les dieux de ce pays et le Dieu d'Israël. Conséquence, cela suscite la colère de Dieu, et Dieu envoie un peuple qui vient dominer et écraser et maltraiter le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël pleure, « Oh Seigneur, pardonne-nous, on a compris !» Et puis Dieu envoie un juge pour les libérer. Et il reste comme ça en paix pendant quelques années. Et puis après, encore rebelote, il retombe encore dans le truc, etc., etc., etc. C'est un cycle qui va durer plus de 400 ans. C'est ça que raconte le peuple, le livre de Juges. Quel est donc le but du livre? C'est celui de mettre en garde le peuple contre une royauté humaine, contre aussi le rejet de l'autorité royale de Dieu. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, l'auteur, c'est Samuel, mais il ne l'a pas dit, parce qu'il semblerait que ce livre a été écrit à l'époque où Saül est roi. Et parce que Saül est roi et qu'il est un mauvais roi, ce livre est une espèce de pamphlet contre le roi Saül en disant, en prévenant le peuple, faites attention au mauvais roi. Le seul vrai et bon roi, c'est Dieu. Confiez-vous à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et quelque part aussi de dire aux gens, revenez à Dieu. Parce que le chemin que vous prenez avec un mauvais roi ne peut vous entraîner que à rejeter Dieu et son autorité. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que c'est Samuel qui a écrit le livre, mais il n'a pas voulu que l'on sache, que l'on connaisse que c'est lui directement. Est-ce que cela vous donne envie d'étudier ce livre? Vous ai-je donné envie d'étudier ce livre? Merci Mathieu, merci Christy, ça me... Parce que le reste, il me regarde en disant, qu'est-ce qu'il demande? Il fait tellement chaud, je suis tellement fatigué que... Je suppose que vos silences veulent dire oui, hein? C'est ça? Ils sont tellement fatigués qu'ils ne disent même pas oui. Ils se contentent. On va, avec la grâce de Dieu, ouvrir ce livre donc la prochaine fois. J'aimerais, pour terminer, souligner simplement que ce texte nous enseigne, dans son ensemble, nous enseigne à s'attacher non pas au règne des hommes, mais au règne de Dieu, et à chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Choisir de vivre sa vie comme on veut, c'est ça la source du désordre. C'est ça la source de la violence, c'est ça la source du mal. C'est ça la source du péché, c'est aussi la source de châtiment qui tombe sur nous vis-à-vis de Dieu, parce que nous mettons Dieu en colère. Le bien, lorsque on choisit de vivre comme on veut, le bien devient le mal. Le mal peut devenir le bien. Est-ce que ce qui est dit là est-il différent de ce que nous vivons aujourd'hui? Non, pratiquement non. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans un siècle où le mal est érigé en bien et le bien est érigé en mal. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans un siècle où le conflit sont permanents entre les gens et les gens n'arrivent pas à sortir du cycle de violence. Essayez de faire la paix aujourd'hui avec les gens. Ça devient compliqué. Les gens ne veulent plus faire la paix. Les gens sont plus contents d'être en guerre en permanence. Aujourd'hui, nous sommes comme pris dans l'engrenage du cycle du péché et de l'idolâtrie, exactement comme au temps du livre du juge. Ce livre nous en souligne aussi une deuxième chose importante. Les recettes sont toujours les mêmes. Tu veux réussir ta marche avec Dieu? Apprends à obéir. C'est tout. Plus tu es obéissant, plus ta marche est bénie, plus ça va avec Dieu. Plus tu es rebelle, plus ça ne va pas aller avec Dieu. La recette est toujours la même. Et ce livre souligne aussi l'importance d'être obéissant, de vivre la volonté de Dieu en lui obéissant. Obéir, c'est accepter les contraintes qu'on nous impose. Et dans notre position d'évangélique, nous allons dire accepter les contraintes qu'on nous impose avec amour, sachant que le Dieu qui nous impose ces contraintes le fait pour notre bien, parce qu'il nous veut du bien. L'obéissance est la clé pour une marche spirituelle bénie qui permet qu'on grandisse spirituellement. Or, que fait le diable aujourd'hui? Il s'attaque à tout ce qui symbolise l'autorité. Il s'attaque à toutes les formes qui concerne l'obéissance. Aujourd'hui, quelqu'un qui obéit fait figure de quelqu'un qui est faible. Il faut être fort en étant un peu rebelle, un peu contestataire, un peu pas se laisser faire. Hein? Pas se laisser faire. Dernière chose, ce livre insiste sur le choix pour nous de la royauté de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas se soumettre à nos rois. Ce n'est pas ce que le livre dit. Le livre n'est pas en train d'attaquer la royauté en général, comme principe. Ce livre s'attaque au mauvais roi. Ce livre met en garde contre la royauté humaine parce qu'elle est toujours susceptible d'être mauvaise, abusive, despotique. Ce livre, donc, nous ramène à la royauté de Dieu, au règne de Dieu, et au fait que nous avons à nous inscrire dans ce règne pour vivre selon le règne de Dieu. Mais nous reviendrons sur tous ces éléments au fur et à mesure, parce que nous verrons que dans beaucoup de situations, ce livre propose des solutions par rapport à toutes ces choses. Eh bien, je m'arrête là pour l'introduction et j'espère que nous allons pouvoir nous plonger maintenant agréablement dans la méditation de ce livre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Même si nous n'avons ouvert que deux versets, il reste que ce livre est dans ta parole et ta parole est la vérité. Conduis-nous à travers ce livre, non pas seulement à découvrir les choses que tu veux nous enseigner, mais à te connaître toi-même aussi personnellement à travers cette œuvre. Sois béni notre Dieu pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole que tu mets à notre disposition. Conduis les méditations qui vont suivre autour de ce texte au nom de Jésus. Amen.